Malachie chapitre 1, verset 14, jusqu'au chapitre 2, verset 10. Malachie chapitre 1, verset 14, jusqu'au chapitre 2, verset 10. Au nom de Jésus. Malheur aux tricheurs qui a des bêtes saines dans son troupeau et qui met de côté un animal taré pour me l'offrir en sacrifice. Malheur à lui, car je suis un grand roi dont toutes les nations redoutent la puissance. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Voici un avertissement que moi, le Seigneur de l'univers, j'adresse aux prêtres. Écoutez-moi et efforcez-vous de me rendre l'honneur qui m'est dû. Sinon, j'appellerai le malheur sur vous. Je changerai en malheur le bonheur que je vous ai promis. Oui, je ferai cela puisque vous ne prenez rien au sérieux. Déjà, je profère des menaces contre vos descendants. Quant à vous, je vais vous jeter du fumier à la figure, le fumier des animaux sacrifiés pendant vos fêtes. Et l'on se débarrassera de vous en même temps que de lui. Vous comprendrez alors que moi, le Seigneur Dieu, je vous ai adressé cet avertissement pour préserver l'alliance que j'ai conclue avec Lévi et ses descendants. Par cette alliance, je leur ai accordé la vie et la prospérité. Je leur ai inspiré du respect. Ils m'ont obéi et ont été remplis de crainte devant ma puissance. Ils n'ont formulé que des enseignements justes. Ils n'ont prononcé aucune parole mensongère. Ils vivaient en parfait accord avec moi dans la loyauté et ils ont convaincu beaucoup de gens de renoncer au mal. Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner aux hommes à connaître Dieu. C'est lui qu'ils viennent consulter au sujet des règles à appliquer, car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Mais vous, les prêtres, vous avez trahi cette mission. Par votre enseignement, vous avez égaré beaucoup de gens. Vous avez rompu mon alliance avec vous. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Eh bien, moi, je vais inciter tout le peuple d'Israël à vous mépriser et à vous humilier, puisque vous n'obéissez pas à ma volonté et que vous faites preuve de partialité dans vos décisions. N'avons-nous pas tous le même Père? N'est-ce pas le même Dieu qui nous a créés? Alors pourquoi sommes-nous déloyaux les uns envers les autres en violant l'alliance conclue entre Dieu et nos ancêtres? Amen. Nous venons justement de célébrer les 500 ans de la réforme protestante. Ce fut un grand événement qui marque la foi chrétienne, et je dis bien la foi chrétienne, mais pas la foi protestante. La réforme n'appartient pas aux protestants. La réforme appartient à l'Église de Jésus-Christ. Si nous devions résumer la réforme en un seul mot, quel serait le mot qui pourrait tout récapituler? Avant de répondre à cette question, faisons un petit détour historique. Avant la réforme, les gens ne comprenaient rien au déroulement de la messe. La messe était en latin. Peu de gens comprenaient ce qui se disait. La Bible n'était pas accessible à tout le monde. On gardait ça au secret, parce que c'est dangereux. La Bible est dangereuse, parce qu'il y a la vérité. Et quand la vérité, elle est proclamée, alors ça devient problématique. Pour avoir accès à Dieu, il fallait obligatoirement passer par les prêtres, les curés, les pasteurs, les évêques, les cardinaux, le pape. Alors, pour résumer, sans ordination, sans consécration des prêtres, il n'y avait aucune justification possible. En d'autres termes, la foi était en captivité, dit le réformateur Luther, la foi était en déportation. Mais lorsque le 31 octobre 1517 arriva, un jeune moine avait prêché pour la première fois la justification par la foi. Cela a fait sonner la voix de la liberté. Voilà le mot qui est lâché. Liberté. Pour résumer la réforme, c'est la liberté. Libre parce que ma foi ne dépend plus d'une tierce personne. Ma relation avec Dieu ne dépend plus d'une autre personne, du curé, du prêtre, du pasteur. C'est une relation personnelle entre moi et mon Créateur. Vous allez peut-être me poser la question, quel est le lien avec notre texte d'aujourd'hui et la liberté procurée par la réforme? Eh bien, figurez-vous que la réforme n'est pas une recherche d'une nouvelle idée originale juste pour taquiner les supérieurs hiérarchiques de l'Église ou pour innover l'Église. La réforme n'est autre que le retour à la source. On revient à la source. Et c'est ce retour à la source qui crée la liberté. Dans notre texte, l'Éternel annonce qu'il va reprendre de la main, de force, d'une caste de prêtres, de privilèges, des privilégiés, ce rôle de prêtre. Je vais arracher cela entre vos mains. Parce que ces prêtres-là, dans l'Ancien Testament, ils croyaient qu'ils étaient les seuls à avoir le droit de servir l'Éternel dans le sanctuaire. C'était des privilégiés. Mais ce qui s'est passé, l'Éternel a fait une sorte de réforme, ou plus précisément un retour à la source. Car au tout début, avant qu'il y avait le sanctuaire, qu'il y avait ce lieu où on apportait les offrandes, il n'y avait pas encore cette histoire de caste de prêtres. Tout chef de famille pouvait se présenter devant l'Éternel pour apporter des sacrifices. Au tout début, au temps de Moïse, avant de quitter Égypte, chaque chef de famille était le grand prêtre de chaque foyer. Donc tout le monde pouvait faire la fonction du prêtre. Mais après un certain temps, il fallait s'organiser. Il fallait quelqu'un qui savait consulter le divin et surtout enseigner le peuple de Dieu. Parce qu'il y avait des dérives, bien sûr. Quand il y a trop de liberté, parfois, certaines personnes en profitent. Alors il fallait cadrer pour protéger le culte de Dieu. Et ces personnes-là avaient reçu le titre de prêtre lévite. Le prêtre lévite. Ils étaient devenus prêtres par vocation et non par héritage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu un pouvoir divin qui vient d'en haut pour exercer son autorité sur le peuple d'Israël, mais ils ont reçu un devoir pour enseigner le peuple de Dieu, parce qu'ils étaient appelés les anciens, formés pour enseigner. D'où le thème de notre culte aujourd'hui, le discipulat, c'est grandir en Christ pour devenir aussi des anciens, des prêtres du Christ. D'ailleurs, ici dans notre texte, l'Éternel reproche aux prêtres, ceux qui avaient le titre officiel, et non les Lévites, parce qu'il y avait deux groupes, les grands prêtres et les Lévites. Les Lévites, c'était un peu les adjoints des prêtres. À cette époque-là, les prêtres, ils avaient mal agi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient abusé de leur titre. Au verset 14, il est bien dit, « Vous êtes des tricheurs !» Dieu s'adresse aux prêtres, mais pas au peuple d'Israël. Parce qu'ils offraient, par exemple, des offrandes en mauvais état et ils épargnaient les sacrifices gras et les gardaient pour eux. Vous imaginez, les gens venaient avec leurs sacrifices, ils sélectionnaient tout ce qui était bien, ils le gardaient pour lui, à la maison, pour sa famille, pour ses enfants. Et ceux qui étaient en mauvais état, c'est ça qu'ils apportaient en offrande. C'est ce qui s'est passé dans le temple. Alors, ce que l'Éternel dit, vous êtes des tricheurs. Ce que l'Éternel transmet comme message ici, alors, par la bouche de son prophète Malachie, c'est que je vais redémocratiser ce titre de prêtre. Et je vais le donner aux Lévites, à ceux qui étaient considérés comme des prêtres de seconde zone, ceux qui étaient un peu plus inférieur. Donc là, il y avait déjà la réforme à cette époque. Et c'est l'impact visible de la réforme que nous avons hérité, nous les protestants, cette notion de liberté que tout croyant peut, et j'ajoute, tout croyant doit devenir tous des prêtres, toi y compris. Tu es un prêtre. Ce n'est pas un titre qui est donné qu'aux pasteurs, qu'aux anciens de l'Église. Tout baptisé doit acheminer vers un processus de discipulat. Celui qui reçoit un enseignement doit devenir un ancien de l'Église. Tu dois grandir spirituellement. Ça fait bizarre parfois de voir, quand on revient dans une paroisse, par exemple, on a quitté une paroisse 10 ans passés, 20 ans passés, on revient, la personne n'a pas évolué spirituellement. Il est toujours resté consommateur de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Aujourd'hui, nous avons un grand problème au sein des églises. Beaucoup ne franchissent pas ce cap de disciples, juste des simples consommateurs, mais pas disciples. Mais il faut grandir spirituellement, chers amis. Il faut grandir car ce que le Seigneur souhaiterait pour nous tous, c'est que ce ministère de la parole que moi j'exerce soit partagé par tous. Ce ministère ne doit pas être un privilège pour un particulier. Il doit être partagé par tout le monde. Ce serait un rêve d'avoir des prédicateurs laïcs, des dizaines de prédicateurs laïcs dans ma paroisse, un jour, pour que tout le monde prenne en main la prédication, la parole de Dieu. Elle ne m'appartient pas. Elle appartient à l'Assemblée d'Église. Elle appartient aux frères et sœurs, à ceux qui ont reçu les biens du Seigneur. Ils ne peuvent pas se taire. C'est un feu qui brûle à l'intérieur et qui te pousse à proclamer. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas un fantasme, ni un rêve fou. Je le dis en me basant avec la prophétie du prophète Joël qui annonçait « Je répandrai mon esprit sur tout être humain ». Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Joël chapitre 3, verset 1. Avant de quitter le pays où j'étais, dans une paroisse où j'étais affecté pour la première fois, il y avait un phénomène bizarre. Tout à coup, les enfants qui venaient au culte des enfants, il y avait 3 ou 4 enfants ont eu des visions pendant le culte. Ça nous a déstabilisés. Des enfants qui nous apportaient des messages. Au départ, personne ne les a cru. Non, ce sont juste des enfants qui veulent se faire être intéressants devant tout le monde. Mais quand on a analysé, on a fait des enquêtes auprès de ces enfants, le message était commun. Le message était clair. Et à ce moment-là, le Seigneur m'avait fait comprendre que l'Église m'appartient. C'est moi le chef de l'Église. C'est moi qui ai la tête de l'Église. Et je peux me révéler à n'importe qui je veux, même à un enfant. N'oubliez pas, le petit Samuel, il avait déjà entendu la voix de Dieu, tout petit, qu'il appelait lorsqu'il était encore adolescent sous la garde du prêtre Élie. Et plus tard, il a pris sa responsabilité, il est devenu le prophète qui a choisi David. Alors ce genre de texte que nous avons aujourd'hui est à la fois encourageant, mais aussi ça fait peur. D'un côté, c'est encourageant car ça rassure l'Église. Et que selon Paul en Jésus-Christ, vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non-juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Galates 3, 27, 28. Il n'existe pas de hiérarchie, de sainteté entre frères et sœurs en Christ. Ça n'existe pas, ça, dans l'Église. Il n'y a pas de hiérarchie de sainteté. Il n'y a pas plus de méritants pour être le porte-parole de l'Évangile. Nous sommes tous appelés à témoigner de lui. Est-ce que vous connaissez une église, une communauté qui s'appelle les Quakers aux États-Unis? Dans ce genre d'église, les gens viennent au culte. Et au moment du culte, il n'y a pas un ancien ou un pasteur qui dirige le culte. Il y a un tout à coup qui se lève et qui fait le culte. Parfois, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas si cette personne-là a vraiment reçu quelque chose. Mais parfois, quand même, ça fait réfléchir. Et on a l'occasion aussi, pendant les moments de prière libre, pour que vous puissiez vous exprimer, parce que tout le monde est appelé prêtre de Jésus-Christ. De l'autre côté, le texte nous prévient. Et là, je me tourne contre moi-même, en tant que pasteur responsable. Le texte me prévient. Oui, tu es utile. Oui, tu es indispensable. Mais non, tu n'es pas irremplaçable. Le Seigneur, il trouvera toujours quelqu'un d'autre pour faire ses œuvres si nous refusons de le faire. Il te demande, veux-tu être mon envoyé? Tu peux dire, oui, attends, dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, quand je serai plus disponible. Mais quand? C'est vrai qu'il nous demande à chaque fois, mais écoutez, faites attention, il trouvera toujours quelqu'un pour le faire. Il ne sera jamais perdant ni gagnant en fonction de nos propres choix. En tout cas, le grand perdant se situera forcément de notre camp. Le principal problème dans la réalisation de la mission que Dieu nous confie, je crois, se trouve dans notre motivation. Comment faire pour motiver les gens pour être disciples du Christ? Le problème, parce que c'est ça le problème chez les protestants, tellement on a reçu cette liberté qu'on se dit « j'ai plus besoin de faire quelque chose, je suis sauvé par la foi, donc j'ai besoin de rien faire ». Et on est un peu victime de notre doctrine. Il est vrai que si nous nous engageons dans les œuvres que Dieu nous confie, cela n'a pas de conséquences de notre salut. Et en tant qu'être humain, nous avons toujours cette question-là en nous, qu'est-ce que j'y gagne? Si je fais cela, si je m'engage, qu'est-ce que moi je gagne en contrepartie si je m'implique dans ce ministère? Et là, je ne peux pas vous mentir, je suis dans le regret de vous dire rien. Vous ne gagnez rien. Au contraire, tu recevras même des moqueries. Tu seras persécuté. Tu recevras des reproches. Et peut-être même des paroles blessantes gratuites, juste pour le plaisir, pour te faire du mal. Donc, il n'y a pas de motivation. Toutefois, pourquoi des hommes, pourquoi des femmes de Dieu se lève malgré tout cela, malgré la crise de la vocation et la crise d'engagement qu'on rencontre de nos jours dans nos églises? C'est parce qu'ils ont reçu quelque chose et ils ne peuvent pas se taire. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui nous apporte cet éclaircissement sur la question. Voici ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Et de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes, dit Paul, dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Devenez des adultes en Christ. Ne restez pas toujours à la phase initiale. Devenez des adultes, c'est-à-dire des porte-paroles de Jésus-Christ. Amen.